Nous sommes mercredi, il est 21h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Bonsoir à tous, bonsoir Méduse.
Salut Mortal.
Bonsoir Drosgar.
Salut.
Et bonsoir à notre invité Yanoupa.
Salut Mortal.
Yanoupa qui est un fidèle du Dojo Bar, qui passe derrière le micro. Cette impression ne veut toujours rien dire, mais c'est un petit peu le même cas que Drosgar. Il deviendra peut-être un invité régulier. On va t'inscrire joliment sur tous les trucs qui vont bien pour que tu puisses éventuellement nous rejoindre régulièrement si tu as des choses à nous dire.
Bah ouais, pourquoi pas.
Voilà.
Si on l'aime bien.
En plus, voilà, si on t'aime bien, alors faut être très simple, parce que sinon on te fouette avec des poireaux.
Ah non, ça c'est un peu quand
même. Ouais, sinon, il passe pas derrière le micro, il passe devant en fait. Si, mais derrière, on n'entend pas.
Par derrière, on entend moins, ça, c'est pas ce que ma femme m'a dit. Bon, bref. donc, nous allons parler dans notre première partie du support de la Wii U par Nintendo. Maintenant qu'on a suffisamment de recul, on peut commencer à tirer des conclusions. Nintendo a-t-il supporté suffisamment sa console pour lui permettre d'avoir du succès, ou au contraire l'a-t-il complètement enterré? Ce sera notre premier sujet. Notre second sujet concernera Stealth Inc. Alors 1 et 2, on va surtout parler du 2 je pense, mais il y a le 1 aussi un petit peu.
Oui, exactement. Ouais.
Tout à fait. Mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je laisse la parole à Drosgar qui sait pas quoi dire.
Ah, je suis tout seul. Alors, comme d'habitude, quand c'est moi qui parle, on va parler de Pokémon. Merci les enfants. Attrapez-les tous autant qu'ils sont.
MST.
Dans votre caleçon.
Donc, c'est pas possible. Le 26 février dernier, si je ne me trompe pas, nous avions eu le dernier Pokémon Direct où, pour les 20 ans de la licence, on avait juste eu une annonce d'un nouveau jeu, enfin du coup de deux nouveaux jeux comme d'habitude, les versions Pokémon Soleil et Lune. On en avait parlé dans le premier Dojo Bar de la saison et on ne savait pas grand chose dessus à part 2-3 artworks, donc on avait surtout les suppositions. Depuis hier, le premier vrai trailer du jeu est sorti. Et nous avons pu voir la gueule des starters. Donc pour ceux qui nous suivent sur Twitter, j'avais tweeté avec, donc vous avez déjà pu voir, avec Brindibou, un petit hibou planté vol.
Justin Brindibou.
Oui, il était bien.
Il était très très bien, il était très bien.
J'en ai chié pour le faire, et je me suis dit vite avant que quelqu'un la fasse aussi. Et il y avait Flamiaou, donc un petit Pokémon chat feu moche. Et Otakin, une Otari Takin. Non mais ils sont pas trop foulés, mais on a l'habitude, hein, c'est pas grave. À part ça, on a surtout vu que ça se passera apparemment dans une des îles d'Hawaï. Enfin, bon, jusque-là, moi, je croyais qu'Hawaï, c'était
une
seule île.
Non, c'est une île tropicale, voilà. Ou c'est... D'accord, c'est une île tropicale.
Non, non, non.
Ah non, c'est spécifiquement à Hawaï.
Alors, au début, on savait juste que c'était une île tropicale depuis les visuels, mais avec à chaque fois les petites fouines de NeoGAF, de Reddit, de n'importe quoi, qui font leurs petites recherches, comme il y a vu avec le fake de la Wii U, là, avec le reflet dans la manette. Ils ont pu analyser le terrain pour se dire qu'en fait, mais non, c'est la même île que cette île-là qu'il y a vers Hawaï, que... Donc, apparemment,
alors,
ce serait une des...
Est-ce que ce soit une coïncidence de ouf?
Connaissant Nintendo, ça m'étonnerait, parce qu'on a bien eu la France, on a bien eu Manhattan qui était repris. Bon, c'était pas hyper flagrant, mais bon, on a bien eu plusieurs îles du Japon. Ça pourrait correspondre, et ça irait bien avec les visuels, surtout. Du coup, par contre, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, sur le trailer, on ne voit à aucun moment, ou en tout cas c'est ce que j'ai cru remarquer, des hautes herbes. Ce qui pourrait peut-être remettre en cause la sacro-sainte rencontre aléatoire qu'on a l'habitude de voir uniquement dans les hautes herbes, ou alors dans les grottes, dans l'eau, etc. Donc peut-être qu'il y aura un changement de ce côté-là. On a aussi pu voir des voitures, on a pu voir un jeu un peu plus détaillé.
Est-ce qu'on va pouvoir piloter les voitures? Est-ce qu'il va y avoir un mini-jeu Mario Kart dans lequel il va falloir écraser des Pokémon moches?
Ce serait tellement
sur la
bien.
Route.
Ah, j'en rêve maintenant.
Est-ce qu'il y aurait moyen de ouais. Au lieu de faire évoluer les Pokémon,
mais, alors, tu peux essayer d'éviter de parler la bouche pleine?
Non, parce que je mange une tartine, ça me paraît dur d'éviter.
On t'a dit,
moi, j'aimerais bien une tartine.
J'aimerais bien que les Pokémon régressent quand on les écrase en voiture.
Ah ouais.
Ah oui, genre ton Dracaufeu redeviendrait un...
Un Reptincelle. Voilà.
Ouais. Putain, mais comment je ne connais rien en Pokémon,
ça deviendrait un Dracopneu.
Oh non.
Sortez-le.
Horrible.
Alors pour cette blague, Méduse, tu réciteras 3 Je t'aime Nintendo et 4 Oui Shigeru sodomise-moi.
J'aime Nintendo.
C'est parce que c'est juste pas gérable, quoi.
Mais du coup, Mortal, t'inquiète pas, je t'apprendrai à jouer, hein. C'est pas bien compliqué, voilà. Regarde, même les enfants de 4 ans y arrivent.
Voilà, je vais avoir un maître Pokémon, il y a Drosgar qui a décidé de m'enseigner Pokémon. T'as du taf, hein, mon gars.
Le premier que j'ai fait, c'était rouge et je savais pas encore lire. Et j'ai réussi. Pourtant, maintenant, c'est plus facile à comprendre, juste avec des images, donc tu devrais y arriver toi aussi.
Non, mais mon problème, moi, c'est l'histoire.
Non, mais... Pardon, l'histoire. Voilà.
J'aime pas les scénarios.
Bah, oui. Et ben, on va faire un bon vieux RPG, tiens, ça va faire du bien.
Bref.
Du coup, on a aussi vu la gueule des légendaires. Donc, des légendaires de chaque version. Et là, par contre, je pense que je suis un peu déçu quand même. Parce qu'en fait, on dirait un mélange entre des mechas et des Digimon, et ça fait assez particulier. Donc, pour la version soleil, ça va être un lion. Bon, c'est assez classique. Un lion de soleil blanc... Je sais pas, il fait assez métallique sur certains aspects, il est assez... En fait, il fait peut-être trop détaillé pour moi. Je vais pas dire que c'était mieux avant, hein, je suis pas ce genre de connard, mais à voir.
Enfin,
pour
si t'es ce genre de connard, mais bon, t'essaies de te contrôler.
Voilà, là on est en public, donc je préfère pas trop le dire, quoi. Et après, pour la version lune, c'est une sorte de grande chauve-souris.
Ah oui, c'est la chauve-souris avec plein d'ailes, là, ou je sais pas
c'est
quoi.
C'est ça, ça pourrait être un boss de Kirby, je trouve.
Effectivement.
Bon, franchement, elle a bien le style. Et celle-là aussi, je trouve qu'elle est un peu dérangeante, mais à voir. Après, je trouve que c'est le début. Par exemple, là, le starter haut qu'il y a au taquin, au début, je peux pas le blairer. Et finalement, maintenant, bah, je trouve que ça va. Une fois qu'on s'est un peu habitué à sa gueule, ça peut le faire. Il y a plus qu'à parier pour des bonnes évolutions. Au final, on sait pas grand-chose de plus à part la date de sortie, que j'ai oublié. Je crois que c'est le 26 novembre.
Il me semble que c'est ça, oui. C'est le 26 novembre. Okay,
le mec qui parle 5 minutes oublie la date de sortie, quoi.
C'est le 23 novembre.
Le 23 novembre en Europe et le 18 dans le reste du monde.
Voilà. Alors, merci Yanoupa. Voilà, Yanoupa, quelqu'un de professionnel, contrairement à Drosgar.
Oui, mais moi, je suis pas en train de bouffer mes tartines en ce moment, là, parce que...
Non, mais c'est des tartines professionnelles, donc...
et voilà, au final, on n'a pas su grand-chose de plus, mais rien que ça suffit à motiver tout le Pokéweb, et surtout le starter Brindibou, du coup. Il y a eu une tonne d'artworks qui ont été faits en l'espace de quelques heures, et ça a été vraiment la grosse hype autour de lui, parce que, je sais pas, c'est un hibou qui tourne sa tête sur lui-même, donc c'est normal, mais je sais pas, tout le monde était fan de lui, et j'ai hâte de voir comment vont être ses évolutions à lui aussi.
Mais il y a un nœud papillon, quand même.
Ouais, c'est trop classe, en forme de feuille, là, c'est...
Non, mais il m'a transcendé. Même moi, qui suis pas un grand fan, je trouve qu'il a quand même la classe, enfin...
Juste un Brindibou.
Bah en plus oui, juste un... en plus cette blague va rester, je pense, parce que maintenant tu as démarré un phénomène de mode. Félicitations.
J'espère. Surtout que je vois que David Lafarge a repris David Lafarge Pokémon là, le mec que je peux blairer.
Alors tu peux pas le blairer. Moi je ne savais pas du tout qui c'était avant que tu en parles. Alors voilà, en privé sur le forum du dojo, il y a eu un ah, il y a même l'autre enfoiré de David Lafarge qui nous a repris.
En vrai, je le déteste pas, c'est juste que j'aime pas ce qu'il fait, donc après je m'en fous. Mais alors, justement, j'ai expliqué. À la base, c'est un mec qui a été connu parce qu'il faisait des unboxings de cartes Pokémon, surtout que j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait il savait même pas jouer au jeu. Ce que je trouve dommage parce que moi j'aimais bien jouer au jeu quand j'étais petit, même si avec moi qui connaissais les règles.
Ouais, qui savait pas lire, machin, on a compris, c'est bon.
Non, mais si, après quand même, les cartes, merci. Et après, là, récemment, il a commencé à ouvrir un peu plus son public en faisant d'autres choses. Et en fait, il fait des vidéos de couple avec sa copine. Et parfois, c'est assez gênant dans le sens où la vie privée prend vraiment le pas sur l'aspect professionnel
alors,
de YouTube.
Alors, je précise que elle a pas le droit de faire une gorge profonde sur YouTube. C'est interdit.
Elle a pas le droit si c'est pas clouté.
Alors, si elle lui suce la bite, c'est bon, mais pas de gorge profonde. Ça, c'est contre les conditions générales de YouTube.
Ah, c'est marqué noir sur blanc. Hein.
C'est, ah oui, non, voilà, c'est
ou
le chapitre.
Blanc dans
pour
blanc,
les gens qui cherchent, c'est l'article 17 des conditions générales d'utilisation de YouTube. C'est juste avant, vous avez donné votre âme au diable en signant en bas. Bref.
Mais et du coup, là aussi récemment, ils ont commencé à faire des vidéos où ils testent de la nourriture, sauf que la première vidéo, c'était sur McDonald's, et c'est vrai qu'en fait, il y a aussi un aspect assez dérangeant dans le sens où on sait pas vraiment si c'est du placement de produit ou pas, c'est toujours un peu flou.
Alors si tu ne sais pas si c'est... Alors voilà, on va faire le petit guide du spectateur, du téléspectateur YouTube. Si tu penses que ça pourrait être du placement de produit, c'est que
c'en est un.
Voilà, c'est clair.
Mais là en plus, je pense pas que ça en soit vraiment, mais c'est juste un peu
mais
gênant.
C'est qui doit être bon alors.
Oui, bah oui, forcément. Mais en gros, voilà, et je voulais juste parler de lui parce qu'il a repris l'image et parce que il a juste cité comme ça. En plus, c'était même pas la vraie image qu'il a repris, c'était juste un screen de l'image, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça fait parcourir le même et tant mieux.
Bref, monsieur Yanoupa voulait nous parler de la fermeture d'Avalanche Studio, qu'il faut pas confondre avec Avalanche Software. Moi, j'ai rien compris à votre histoire, donc je vous laisse vous expliquer parce que je bite rien.
Non, en fait, c'est l'inverse.
Ok, donc si, c'est studio, l'inverse non, de quoi c'est un sur la fermeture d'Avalanche Studio
c'est Avalanche Software, en fait. Avalanche D'accord. Studio, c'est ceux qui
Est-ce
font...
Est-ce que c'est un rapport avec 1080 Avalanche ou pas
Pas du tout.
D'accord.
Ça pourrait, mais non. Et en fait, ben ouais, Disney arrête le jeu vidéo sur console, en tout cas. Donc, ils ont fermé Avalanche Software, donc. Et c'était ceux qui faisaient Disney Infinity.
Voilà pourquoi j'en avais jamais entendu parler.
Et ouais.
Allons, foiré.
Un très bon jeu, pourtant.
Je sais pas, j'ai pas essayé. Apparemment, c'est pas génial, mais bon, c'est au niveau des figurines, ça se vendait quand même relativement pas trop mal.
C'est pas génial, mais il y a des mecs qui refait Splatoon dessus, et ça.
Ah ouais, en même temps, on copie
les mecs. Faire.
ouais, et puis voilà, quand donc Disney, tout leur studio jeux vidéo, en fait, il y avait Propaganda Games. Donc, qu'ils étaient sur un Pirate des Caraïbes, apparemment, quand ils l'ont fermé. Ensuite, il y a eu Black Rock Studio. Après, il y a eu Junction Point. Donc, c'est ceux qui faisaient Epic Mickey. Et après, ben, LucasArts, qui ont fermé aussi.
Donc, en fait, ils ont fermé tous les studios un par un, mais il y a quelqu'un qui va récupérer Disney Infinity et tout ça, ou c'est vraiment juste le truc est mort?
Ah non, je pense que le truc est mort, enfin, apparemment.
Après, ils ont bien essoré la licence, je pense, parce qu'ils ont fait 3 versions. À chaque fois, il fallait racheter des nouvelles figurines des différents univers. Si ça tourne un peu en rond, il vaut peut-être mieux arrêter maintenant, pas faire une Skylanders où finalement ils font toujours la même chose.
Ouais, voilà, ouais, et puis ben, ils vont sûrement essayer de bosser avec d'autres. Enfin, vendre leur licence ou Star Wars pour EA, en fait. Hein,
Oui, je pense que c'est quand même le plus probable. Hein. De toute façon, ils vont pas lâcher la poule aux œufs d'or. Les jeux Star Wars, ça fonctionne depuis des dizaines d'années maintenant. À mon avis, ils vont le déléguer à quelqu'un. Ils vont. Voilà.
Bah, déjà,
il m'étonnerait que ça s'arrête.
On pourrait voir
Emmanuel Valls du Lego. Occuper, voilà, quoi.
Putain, tu sors.
On pourrait voir arriver du Lego
sors,
Star Wars.
Tu re-rentres et tu ressors.
Est-ce que je me suis les pieds à chaque fois?
Oui, bien sûr, parce qu'il a plu et que t'es
pas trop crade.
Voilà, une triste nouvelle, non, j'ai envie de dire que c'est une bonne chose, parce que les Skylanders c'était déjà très lourd, Disney Infinity c'était de la merde, Lego Dimension ça fait un gros four, c'est bien que ça s'arrête.
Ça fera de la place pour les Amiibo. Voilà. Ça fera de la place pour les Amiibo dans les rayons.
On voit le gros NSX là quand même.
Hein. Que plus personne n'achète maintenant, donc c'est dommage.
La dernière petite nouvelle de ce tour de table de l'actualité, c'est Call of Duty Infinite Warfare. Eh oui, Gauthier. Je le prononce bien. Oui, jeu de l'année, mais mauvais jeu de l'année, a priori. C'est maintenant, à l'heure actuelle, une des vidéos les plus détestées sur YouTube, avec 1 million quelque chose de plus rouge.
Ça me rappelle le trailer de Ghostbusters.
C'est un peu ça, ouais. C'est-à-dire qu'il a fait pire quand même que le trailer de Ghostbusters, ce qui est quand même balèze. Et du coup, je me dis que l'avenir de ce jeu est extrêmement brillant. Alors, Call of Duty Ghost, qui était, je crois, l'avant-dernier... Alors, j'ai du mal à suivre, parce qu'il y en a 4 par an maintenant, donc c'est compliqué. Alors, je sais pas qui est le dernier, du coup, Black Ops 3
Je crois que c'est merde, ça. Merde, j'ai un doute maintenant.
Ça devient compliqué à suivre. Je sais que Call of Duty Ghost avait été très froidement accueilli par les joueurs, c'était vendu toujours par camion, mais beaucoup moins de camions que les précédents. Il me semble que Black Ops 3 a pas mal bidé aussi, peut-être un petit peu moins que Ghost, mais il a quand même, il s'est quand même bien ensablé. Alors... Je vous dis que Infinite Warfare est quand même super bien parti, parce que là, même si c'est pas forcément significatif, ça reste YouTube, ça reste des pouces, ça reste des conneries. Je me dis que le public cible va peut-être, le public cible de base, c'est-à-dire le beauf, va peut-être détester ce jeu. Du coup, peut-être qu'il est intéressant. Moi, c'est le premier Call of Duty qui m'intéresse depuis un moment, en tout cas. Du coup.
Dans l'ordre, depuis la Next Gen, qui est maintenant la Current Gen, ça fait Ghost, Advanced Warfare, ouais, je prononce toujours très bien, et Black Ops 3.
D'accord, donc c'est l'avant-avant-dernier, en fait, Ghost.
Avant-avant-dernier, oui.
c'est ça. L'avant-dernier étant Advanced Warfare, qui était déjà très très techno-futuriste. Black Ops 3, qui est toujours comme Black Ops 2, qui est toujours un petit peu techno-futuriste. Mais apparemment, sur Infinite Warfare, les mecs, ils ont dit « Ok, on se projette 300 ans en avant, on est tous dans des stations spatiales et on fait de l'exploration. »
Je tiens quand même à rappeler que dans le prochain Call of Duty, il y a des voyages en vaisseau, alors que dans Battlefront, il n'y en a toujours pas, alors que c'est un jeu Star Wars. Mais bon.
Oh, ça va, ça va.
Ah bah quand même.
Moi, je me demande si ils vont pas réussir à tuer la franchise Call of Duty à force. Alors, je sais pas.
Je crois que c'est déjà mort, mais...
Mais moi, je pense que c'est mort depuis longtemps. Moi, je te dis...
Ça se voit encore.
Je me dis que si les fans de Call of détestent celui-là, il va être forcément intéressant. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et ça me faisait marrer de voir que le truc s'est fait bâcher à ce point-là, alors que d'habitude Call of Duty c'est quand même le rouleau compresseur, ça doit être un des jeux les plus vendus au monde, l'une des licences les plus vendues au monde, enfin c'est assez fou quand même.
En tout cas le truc qui est pas mal c'est que sur PC, chaque année quand ils en sortent un, il y a toujours un moment où t'as le droit à un essai gratos d'un week-end ou quoi, tu vois, comme Steam fait pour une série de jeux. Mais par contre là où ça devient contraignant c'est que justement depuis la sortie de la PS4 et de la Xbox One, les Call of Duty c'est 50 gigas quoi. Et 50 gigas les 7 3 jours, faire de la place sur le SSD, machin truc, tout ça, ça donne jamais envie.
Passer 3 jours à le télécharger, se rendre compte que t'es arrivé à la fin de la limite de temps.
Ouais, c'est ça quoi. Sachant que le dernier que j'avais essayé, il était vraiment ultra pourri de chez ultra pourri.
Alors c'était lequel par curiosité? Mais,
Attends,
Ghost, Black Ops 2, Black Ops 3.
Je crois que c'était Black Ops 2 en fait.
Ouais, c'est vrai que c'était pas terrible.
C'est vraiment nul hein. Vraiment, vraiment nul de chez nul, quoi, le multijoueur.
Bah, c'est un rail shooter, quoi, voilà, c'est tout.
Ouais.
C'est à peu près tout. Bon.
Par contre...
Oui, pardon, oui. Excuse-moi, monsieur Drosgar.
Voilà, je voulais prendre un peu d'avance sur ce que t'allais dire, mais tant pis. Par contre, il y a 4 jours, je crois, enfin, c'était samedi dernier, il y a eu le trailer de Battlefield 1 qui est sorti. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, le Battlefield qui a l'air de se passer pendant la Première Guerre mondiale. Et qui, lui, par contre, a l'air de rencontrer un accueil moins froid, ça c'est sûr, mais c'est pas très difficile.
Ben, en fait, c'est ce qui est compliqué, enfin, tu sais pas vraiment si c'est le moteur du jeu ou pas. Soit supposons que ça l'est, c'est magnifique, mais surtout tu vois aucune phase de jeu, donc ça a strictement aucun intérêt. Quoi.
Non, bien sûr. Mais voilà. C'est vrai que la bande-annonce suffit à te mettre un peu dans le bain et à te motiver un peu. Déjà parce que, enfin,
avec toi
non, mais c'est un vieux con.
Ben oui.
Mais c'était pas Led Zepp la musique, non, je sais plus qui était.
Non, une espèce de... C'était une version whoop-whoop de Painted Black, je crois, non?
Ah, c'est peut-être ça. Mais du coup, moi j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui s'extasiait devant en se disant, bah tiens, ça vaut peut-être le coup de s'y réintéresser un petit peu. Parce que par rapport à justement Call of Duty qui reste dans le côté futuriste, alors que les fans ont peut-être un peu marre, bah derrière, eux ils reviennent un peu aux sources en reprenant une guerre assez. Un peu plus terre à terre, quoi. C'est qu'à le dire dans les tranchées, forcément. Et qui va peut-être un peu plus intéresser les joueurs. Ouais, non, j'ai avec ça sous la main.
Ouais, mais c'est bien déjà.
Je suis pas certain. On verra.
On verra bien. Bref, nous allons marquer une première pause musicale avant d'attaquer notre premier sujet. Nous allons écouter, et que je dise pas de conneries, nous allons écouter un morceau qui s'appelle Sequel. C'est ça, Sequel, de la bande originale de Stealth Incorporated. C'est un morceau qui dure un tout petit peu plus de 3 minutes. On se retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour.
Tour.
Merde, je me suis chié sur les cuisses.
Cuisses. Toujours aussi compliqué à faire.
Voilà, mais surtout que quand t'enchaînes une deuxième phrase, faut quand même être au taquet, faut être réactif, c'est pas simple.
On fait ça tout doucement jusqu'à ce que ça aille vite.
C'est exactement le leitmotiv. Je vais reprendre pour ce sujet quelques faits. Donc on va parler du support de la Wii U par Nintendo, parce que maintenant qu'on a suffisamment d'années de recul et qu'on sait que le successeur est au coin de la rue, juste là d'ailleurs au coin, après le feu rouge, tu vois, tu tournes à droite, il est là.
Derrière
juste derrière le camion
de...
pizza.
C'est boutique chinoise qui le vend déjà en avant.
C'est ça, le camion pizza, tu lui demandes une ligne qui te l'a fait. Un pepperoni ou pas. Après ça c'est une question. Moi j'aime bien avec des anchois, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà, on l'a eu dans les questions aux investisseurs, on l'a eu en 2014, on l'a eu aussi en 2015. Le fait que Satoru Iwata en personne, alors en 2014, Satoru Iwata, en 2015, je sais plus qui c'était, n'a dit, voilà, Nintendo n'a pas su délivrer du contenu régulièrement. C'est exactement ce qui a été dit. Ils ont dit qu'il y avait de trop larges intervalles entre les titres first party clés, donc les vrais titres first party, et qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus se permettre de décider du destin d'un système de ce type-là, y compris à son lancement, avec un seul et unique titre. Ça, c'est ce qui a été dit dans les comptes rendus aux investisseurs. Donc c'est vraiment en interne que Nintendo a reconnu qu'il y avait un problème. Donc oui, ils ont délivré du contenu de qualité avec Mario Kart 8, avec Splatoon, du DLC de qualité, ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent avec ces mêmes jeux, c'est-à-dire qu'ils ont délivré effectivement du contenu régulièrement, mais les grosses sorties de jeux ont été trop écartées. Un deuxième chiffre, enfin deux chiffres pour étayer ça, le nombre de jeux sortis en version boîte, hein, j'entends, donc pour avoir une vraie comparaison, sur GameCube, 661 jeux officiellement licenciés en Occident, hein, ça compte Amérique du Nord et Europe en gros.
Ça fait beaucoup ou pas ?
C'est pas mal.
Ouais, c'est quand même pas mal.
C'est
ouais.
Pas mal. Sur Wii, 1081.
Ouais, mais la Wii c'était un cas particulier.
Donc il y a une quantité de shovelware absolument hallucinante là-dedans, mais quand même 1081 jeux licenciés officiellement en Occident. Je compte pas les titres exclusifs japonais, il y en a probablement beaucoup plus. Wii U. Officiellement, aujourd'hui, on en est rendu à 143. C'est-à-dire que moi, avec ma bibliothèque là, la bibliothèque qui est sur le mur là-bas, que vous voyez quand vous regardez le dojo direct, j'ai un tiers de la ludothèque Wii U.
Ah ouais.
C'est quand même assez flippant dans le principe.
Ouais, carrément.
Deuxième chiffre un petit peu inquiétant, le nombre de titres first party développés par Nintendo, donc vraiment en interne, hein, pas des titres seconde partie, pas des titres juste édités par Nintendo, des titres first party. Sur GameCube, 45. Sur Wii, 53. Et sur Wii U, 28. Et dans les 28, il y a quand même Wii U Party, Wii Fit U, Wii Sports Resort... Nintendo Land, enfin il y a quand même des jeux qui sont pas inintéressants, d'accord, mais qui sont quand même pas des jeux majeurs et qui sont pas des licences majeures.
Enfin derrière sur Wii on avait Wii Play, on avait Wii Music, on avait Wii Fit et Wii Fit Plus, on avait.
Tout à fait, mais t'as une dizaine de titres sur Wii au moins qui sont effectivement pas des titres extraordinaires. Ça reste des jeux sympathiques, hein, y a pas
de soucis là-dessus. Sûr, c'est toujours sympa, mais bon.
Mais c'est pas du jeu majeur, c'est pas du Zelda, c'est pas du Metroid, c'est pas du F-Zero, c'est pas du voilà. Wii U, c'est pareil, hein, t'as une dizaine de titres au moins qui sont quand même des titres certes sympathiques. Je veux dire, Wii Fit U est un très bon entraîneur virtuel, machin. Moi je m'en suis servi, ma femme s'en est servie. C'est très bien fait comme logiciel. C'est pas un jeu majeur, hein, faut quand même pas déconner.
Ah non, bien sûr, mais ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes non plus. Là c'était pour toucher la fibre casu.
Tout à fait, non mais après,
sans critiquer.
Pareil, Wii Sports Resort, c'est un très bon jeu, y a pas de souci là-dessus, mais. Bon, ça reste quand même des jeux qui sont pas des jeux majeurs et qui sont pas d'une profondeur hallucinante.
C'est plus des versions 1.5.
En plus, c'est plus des versions 1.5, pour quand même être honnête. Du coup, là, on peut quand même se poser la question, est-ce que Nintendo a assez poussé et supporté la Wii ? Est-ce que finalement... Parce que on se rappelle qu'au lancement de la 3DS, il y avait très très peu de jeux Nintendo, donc le lancement a été un petit peu catastrophique, ils avaient laissé beaucoup de place aux éditeurs tiers, et finalement, ils ont été obligés de rattraper le truc très rapidement. Et derrière, ils ont réussi à maintenir un rythme de sortie relativement conséquent.
Enfin, ils ont été aussi obligés de rattraper le truc parce qu'ils avaient balancé une console portable de 250 boules et ça, c'était pas concevable pour les acheteurs.
Il y a aussi ça, hein, je veux dire.
Ils ont fait une baisse de prix de 70€, c'est non négligeable.
On est complètement d'accord. La Wii U, il y a une partie de son insuccès vient quand même essentiellement de son nom.
Bien sûr.
Le fait que personne n'avait compris que c'était
son nom, de la com, de.
On est complètement d'accord là-dessus. Maintenant. Les chiffres parlent quand même, t'as quasiment deux fois moins de titres first party que sur Wii. Et puis c'est pas avec ce qui est annoncé d'ici la fin de l'année que ça va s'arranger. Hein. On va vraiment arriver à, deux fois moins.
Ouais.
De toute façon, depuis un... Non, ça fait combien de temps qu'on a des infos sur la NX ? Enfin, des infos, qu'on a des doutes ?
Des doutes.
Ça fait un an.
Ça fait une bonne année, ouais.
Voilà, donc ça veut dire que ça fait un an que
les
gens se disent.
Quasiment 18 mois, je pense.
Voilà, on va dire qu'il y a au moins un an où les gens se disent, bah tiens, ça peut-être pas forcément le coup d'acheter une Wii U maintenant. Là, rien qu'avec les rumeurs de PS4.5, là, je connais déjà pas mal de gens qui ont arrêté de vouloir économiser de l'argent pour acheter une PS4 en se disant, bah ça se trouve, dans 6 mois on va en changer, donc ça vaut pas le coup. Alors que ça va être quand même une console juste plus et pas une autre console. Alors là, si c'est un support totalement différent, je peux comprendre que les gens n'ont pas forcément envie de passer à la caisse.
Et au-delà du fait qu'il y a une autre console derrière, il y a surtout que les gens n'avaient pas trop de vues sur ce qui pouvait sortir sur Wii U, quoi. Moi, je connais plusieurs personnes qui étaient vraiment très intéressées par l'achat d'une Wii U, mais il n'y avait pas le petit Zelda derrière, quoi, tu vois. Et où certes, il y avait Mario Maker, Splatoon, etc. dans la time frame, mais après, ça devenait un petit peu trop limite. Donc, sachant qu'il y avait une NX qui allait se profiler, c'était pas vraiment tout pour l'attente.
Mais en même temps, tu peux, je veux dire, Sony annonce la PlayStation 4, c'est pas pour ça qu'ils arrêtent de sortir des jeux sur PlayStation 3. Il y a quand même eu à un moment défaut de support.
Ouais, mais on sait bien qu'on va en parler.
J'aimerais bien entendre Yannoupa sur le sujet qui s'est fait interrompre il y a 30 secondes.
Oui, désolé.
Non, bah j'allais dire en fait qu'en plus ils ont annoncé l'arrêt de la production déjà, c'est ça, en 2018.
Alors, c'était une rumeur. Hein.
Oui. C'était qu'une rumeur.
Ouais. Il y a eu une rumeur comme quoi ils arrêtaient la production, ils arrêtaient la production en mars de cette année. Une rumeur qui a été niée en disant non, mais on n'arrête pas en mars. Ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient pas cette année.
Mais donc, après, voilà. Ils n'ont pas dit que c'était en 2018 après, pendant le truc des investisseurs.
Alors là, j'ai pas suivi le truc des investisseurs de cette année. Hein, je suis désolé. Donc,
même peut-être. Si 2018, ça fait loin quand même. Enfin.
Ouais, ça fait loin, mais je sais pas. C'est quand tu vois que la 360, ils viennent juste d'arrêter la production là maintenant. Enfin, c'est.
La 360, on parle aussi d'une console qui s'est bien vendue, donc avec beaucoup de jeux, et la Wii U, c'est quand même une console qui est presque mort-née, c'est dur à dire quand même. Et du coup, bah, c'est ça, pas grand-chose de continuer la production. Enfin, je pense qu'il faudrait mieux peut-être tout balancer sur la NX, quitte à décevoir un peu les anciens fans, et au moins faire une console qui tue vraiment tout, et derrière se rentabiliser un peu et se réimposer.
On est d'accord sur le principe, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, je suis à la place de Tonton Kiki. Le premier truc que je fais, c'est que je dis je maintiens un calendrier minimal sur Wii U pour survivre, entre guillemets, et de toute façon, je m'attends à faire une année de vache maigre parce que j'ai pas le choix, et je reconcentre toutes les forces sur NX. Ça me paraît évident. D'un point de vue stratégique, c'est ce qu'il faut faire, je pense qu'on est tous d'accord ici.
Ouais, c'est exactement ce qu'ils vont faire.
Ils ont tout intérêt à produire la même pénurie qui sera attaquée au lancement de la NX.
Maintenant, la vraie question que je me pose derrière, peut-être plus sournoise, entre guillemets, c'est, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme sur Wii U, ça se voit, finalement, parce que, certes, ils avaient un marketing pourri, certes, ils avaient un nom pourri, certes, ils avaient une date de sortie pourrie, certes, tous les défauts que tu peux imaginer, mais le fait est, ils sortaient un New Super Mario Bros. U, un Mario Kart 8 3 mois après, un Splatoon 3 mois après, un Metroid 3 mois après, un machin, ils enchaînaient vraiment les sorties de gros titres, comme on a eu sur Wii, où finalement, il y a eu assez peu de temps mort. Il y en a eu un, je crois, 2009-2010, on en a discuté il y a 2 semaines. Donc, il y a eu des temps morts, il y a eu des passages un peu à vide, mais globalement, ils ont quand même sorti 2 Zelda sur la machine. Voilà, un à la sortie, un quasiment à la fin. Ils ont quand même rempli le contrat, j'ai envie de te dire. Ils ont sorti les jeux qu'on attendait. Alors, certes, on pouvait en attendre plus, certes, il y en a qui ont été un peu décevants, tout ce que tu peux imaginer, mais les mecs se sont bougé le cul. Ils ont sorti les baloches, ils les ont collés sur la table et ils y sont allés. Sur Wii U, il y aura, au final, c'était extrêmement déprimant, c'est ce que disait Antix la semaine dernière, il y aura même pas un Zelda.
Oui.
Il y aura même pas un Zelda exclusif à la Wii U. C'est inquiétant quand même.
Le seul exclusif est un spin-off.
Le seul exclusif est un spin-off, c'est Hyrule Warriors. Bon, Hyrule Warriors, c'est un jeu qui est amusant.
Mais non, mais c'est un spin-off, c'est pas ce
que... Ça reste un spin-off et puis ça reste un mousseau.
C'est pas ce qu'on veut absolument. Voilà.
Qu'on a aussi eu sur 3DS du coup.
Oui, enfin la version 3DS est déjà beaucoup plus dispensable. Hein.
Ça reste le même jeu, à peu près.
Oui, c'est exactement le même jeu. Il y a quelques embranchements supplémentaires, mais c'est exactement le même jeu, c'est exactement le même contenu, ou quasiment.
Outre la qualité du titre, ça reste le même jeu, et du coup, c'est pas si inédit que ça, quoi.
C'est pas si inédit que ça, et je veux dire, alors sur 3DS, il y a quand même Link Between Worlds, et quand même, bon. Triforce Heroes est quand même plus de l'ordre du spin-off quand même un petit peu, même si...
Un peu, oui.
C'est un peu compliqué. Mais voilà, est-ce que Nintendo va être capable de tenir le rythme ? Là, c'est bien, tous les projets qui sont annulés sur Wii U ou retardés sont reportés sur NX, donc du coup, on sait qu'on va avoir énormément de contenu au début. Mais vendre une console, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. S'ils nous sortent le Zelda Wii U, le nouveau Mario Kart et tout ça sur les 4 premiers mois de la console, alors oui, ils vont en vendre des cajots. Est-ce que derrière, ils vont être capables de tenir un calendrier avec des sorties régulières, à maintenir la hype, à maintenir les ventes, à maintenir tout ça, sachant qu'ils ont été incapables de le faire sur Wii U.
Alors, vas-y, ou pas.
Ben, j'aimerais dire que, en fait, au début, les jeux de Nintendo, ils se vendent quand même sur la longueur, quoi. Donc, si tu sors, je pense que par exemple, sur la Wii U, s'ils avaient sorti MK8, SSB et Splatoon dans la première année, la console, elle se serait peut-être vendue un petit peu plus, quoi. Donc,
le truc, c'est qu'il y a le support de Nintendo qui est à prendre en compte. Mais il y a aussi les éditeurs tiers, pardon, et si la console se vend bien au début, ces derniers vont peut-être être plus motivés à développer des jeux dessus.
Ah, mais ouais, c'est évident que... Ouais. C'est l'histoire de Rayman Legends, hein, c'est une exclusivité Wii U. Ça se vend pas assez, donc finalement ça l'est plus et on le retarde, et puis finalement la version qui se vend le mieux, c'est quand même la version Wii U, parce que le public était là.
Oui, c'est vrai.
Là, c'était une vraie erreur stratégique de Ubisoft. C'est un peu la poule et l'œuf. Hein. On fait pas votre jeu sur votre console parce que vous la vendez pas assez, mais en même temps, si vous faites pas des jeux dessus, on la vendra jamais.
Non, c'est exactement ça, en fait. Mais c'est toute la différence avec Sony, où Sony peut se permettre de sortir une console sans jeu et les gens vont l'acheter. Quoi.
Parce que les gens sont des boutons.
Difficilement se permettre ça. Oui, mais voilà, mais c'est pas le même genre de... Enfin, typiquement, chez Nintendo, c'est soit les gens qui sont vraiment... qui sont fans de Nintendo à un moment, qui ont une histoire avec le jeu vidéo.
Et qui vont acheter.
T'auras moins le casual gamer, ou bien c'est peut-être plus ses enfants à un moment, quoi. Je veux dire, c'est... je crois que pour fonctionner sur console Nintendo, l'exigence n'est pas la même, quoi. On l'a bien vu avec tous les tiers qui se cassent la gueule juste parce qu'ils font des portages à la ramasse ou que... qui tirent pas partie du matos ou voilà.
Même quand les portages sont de qualité, je veux dire, à la sortie de la Wii U, t'avais 23 jeux sur le line-up de lancement, ce qui est quand même pas mal. T'avais un seul jeu Nintendo, enfin deux, Nintendo Land, vous m'excuserez, je fais un peu l'impasse parce que c'est le jeu qui était packagé avec la console, mais... Enfin, pas toutes les versions, si, toutes les versions
non, je me souviens pas toutes, non.
Ouais, toutes.
Ah, non, il y avait le package Wii U aussi, il y avait le package Zombie U aussi, je crois.
Ah oui, voilà.
C'est juste.
Voilà, mais pour un ça restait un jeu qui était packagé avec la console et bon voilà, enfin t'avais deux jeux Nintendo pour 20-21 jeux tiers et il y en a de bonne qualité dans le lot, hein. Il y a des jeux qui étaient plus que corrects et dont le portage était tout à fait honnête. Maintenant, ça a pas suffi, ça s'est pas vendu parce que tous les portages avaient plus de 6 mois, 1 an. Il n'y a pas eu le déclic au niveau des tiers de tiens, on va sortir le gros jeu de machin qui sort sur Xbox 360 dans 3 mois, il sortira en même temps sur Wii U. Ça n'est pas arrivé.
Alors que techniquement, là, contrairement à la Wii, ça aurait été possible sans trop de problèmes, surtout qu'ils faisaient aussi le jeu sur PS3 et tout. Donc au final, niveau qualité, bon, ça aurait pu être possible.
Ça aurait pu être largement possible et ça s'est pas produit. Et t'as tout un tas de portages qui ont été annulés comme ça, tu sais vraiment pas pourquoi. Et t'en as qui sont restés, tu sais pas pourquoi. Par exemple, Watch Dogs sur Wii U, je suis désolé, c'est toujours incompréhensible.
Ouais, c'est pas faux.
Ouais.
Alors après, c'est peut-être parce qu'on l'avait promis, c'était bien engagé, on le finit. Mais je vois pas l'intérêt, le truc a dû se vendre moins bien que FIFA 13, qui était déjà un portage complètement à l'arrache, parce que c'était FIFA 12 avec écrit FIFA 13 sur la boîte. Mais c'est vrai, hein.
Oui, non, c'est bien vrai.
Il y a eu du foutage de gueule aussi sur ce point de vue-là, mais il n'y a pas eu de gros efforts de fait de ce point de vue-là. Et bon, est-ce que... Enfin voilà, on sait très bien que de toute façon, ce qui fait vendre une console Nintendo, c'est les jeux Nintendo. Et j'ai pas l'impression que sur Wii U, ils aient délivré réellement ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que je crains sur NX, c'est que oui, tous les projets reportés, c'est bien, il y a du boulot qui est déjà fait. Il n'y a plus grand-chose à faire pour que ça marche sur NX, mais est-ce qu'ils vont finalement y arriver ?
Oui, puis combien est-ce qu'il y en a réellement, à part, au-delà d'un Metroid et d'un Zelda, quoi ?
Le Metroid, on sait qu'il y en a un ou c'est juste on imagine,
non,
on espère.
Non, on suppose, on espère.
Oui, donc il y aura
le Zelda,
jamais.
On sait qu'il y a un Zelda. Ça, y a
le,
pas problème.
Seul, ouais. Le seul,
le reste,
pour l'instant, c'est Zelda.
Ouais, voilà. Le reste, c'est que de la supposition, d'autant plus qu'on connaît pas encore le concept de la console.
Oui, c'est ça le problème.
Un peu, voilà.
Et surtout, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que... Enfin, bon, finalement, entre la Wii et la GameCube, il y avait une grosse différence, et pourtant, ça a pu le faire, mais le fait que le Zelda soit sur Wii ou sur NX, je me dis que ça risque d'être compliqué s'ils ont vraiment une console très originale sur... Enfin, si vraiment la NX est une console très originale par rapport à ce qui se fait d'habitude.
Ça dépend, parce que, regarde, tu viens de dire toi-même, entre la GameCube et la Wii, c'était quand même... les contrôles étaient radicalement différents, quoi. Ça les a pas empêchés de mettre le Zelda...
Ouais, mais tu vois, en termes de puissance, ça pouvait se ressembler, alors que là, si la NX, ça commence à une console multiple...
C'est la puissance, c'est juste du tuning après derrière, quoi, tu vois.
Oui, c'est-à-dire que t'auras peut-être du 60 images par seconde sur NX, alors que t'auras du 30 images par seconde sur Wii U, avec une distance d'affichage moindre. Enfin, honnêtement,
ce qui compte, c'est comment tu peux y jouer, en fait.
Ça fera la même différence qu'entre la PS4 et la PS4 Neo. Si vous vous demandez, chers auditeurs, si je suis une vraie salope, oui.
Hein, carrément. Ah, mais ça, on le sait tous, hein. Ça,
non, mais voilà, mais c'est assumé, hein.
Absolument. Je sais pas, enfin, moi, j'ai pas eu le temps, mais est-ce que quelqu'un a eu le temps aussi d'un petit peu jeter un œil aux présentations, réponses aux actionnaires et tout ça qu'il y a eu il y a 10 jours?
A priori, il y a nous pas.
Ouais, sur quoi? J'ai pas bien entendu.
Sur les présentations aux actionnaires, tu nous disais, et tout ça, tu as pu avoir un petit... Tu t'y as jeté un œil ou pas du tout?
Bah, vite fait, quoi. Enfin, ce que tout le monde a vu, quoi. Mais, bah, après, il laisse rien filtrer, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose.
Mais c'est ce qu'ils disent, qu'ils vont encore continuer à nourrir la Wii U et la 3DS, jusque pendant un an, ou est-ce qu'ils en parlent? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi.
Bah, en fait, le seul truc qu'ils disent, c'est que la NX remplacera pas la Wii U et la 3DS. Bon, après,
Putain, je sais vraiment pas ce qu'ils vont nous sortir, mais ça me fait de plus en plus peur, moi.
Achat gonflable.
Cette phrase fait peur, c'est vrai qu'à chaque fois ils disent ça la remplacera pas, mais...
Mais surtout qu'ils ont pas l'intention d'arrêter la production avant 2018, je vois pas trop... Enfin, ça veut dire que tout d'un coup on va se retrouver avec une avalanche de jeux sur Wii U, avec un add-on NX pour la Wii U qui va booster sa puissance, ce serait original, hein.
Et ça entrerait plus dans la théorie dont j'avais parlé, tu vois, avec les trucs qui mis en série permettrait d'augmenter la puissance de la machine.
Donc, du coup, t'achèterais une NX qui serait en fait une Wii U avec un truc au cul ou un truc intégré avec de la patate à plus savoir qu'en faire.
Comme ça, les gens n'auront rien compris du tout, comme ils avaient rien compris avec la Wii U.
Ça va bider exactement de la même manière, voire pire.
Ou bien, éclair de génie, la planète entière va te réveiller et comprendre Nintendo.
Et va faire comme les gens intelligents, c'est-à-dire avoir un PC gaming pour jouer à tout ce qui n'est pas Nintendo et puis avoir une console à côté.
On arrête toutes les guerres en cours, il n'y aura plus la faim dans le monde, il n'y aura plus de cancer.
Et on aura tous des pénis géants.
Essentiel.
Non, mais je me dis qu'il y a quand même un truc. C'est vrai que. Aujourd'hui, faut être objectif, si tu n'as que une Wii U pour jouer et que tu n'as même pas de PC de jeu à côté, tu passes à côté de pas mal de trucs. Alors, des trucs qui sont parfois un peu oubliables dans certains cas, mais c'est vrai que tu passes quand même à côté de quelques trucs. Je me dis que si les mecs arrivent à faire une console...
Et inversement, passer à côté de Splatoon, Bayonetta 2, Mario Kart 8, etc. C'est quand même un petit peu la honte.
Je me dis que Nintendo, là où Nintendo a un coup à jouer, c'est s'ils arrivent à faire une console sur laquelle il y a le FIFA et le Call of, avec le niveau de qualité qu'on peut en attendre, voire éventuellement un petit peu plus, quelque chose de, je sais pas, plus immersif, plus intéressant, plus rapide, plus beau, plus je sais pas quoi, donc quelque chose qui est capable d'attirer le beauf de base. Et où en plus t'as ces jeux Nintendo qui sont de qualité, donc... Arriver à séduire les deux publics et arriver éventuellement à amener l'un vers l'autre ou l'autre vers l'un, ce que je trouve intéressant aussi, hein, c'est de dire vous jouez à Call of, c'est très bien, ça vous amuse très bien, vous l'avez votre Call of. Maintenant, regardez, il y a Splatoon, c'est très rigolo aussi, c'est peut-être un peu plus intelligent comme gameplay. Donc voilà, essayez ça, c'est peut-être intéressant. Non mais voilà, aujourd'hui je comprends les gens qui disent j'achète une PS4 parce que j'ai les jeux que je veux, c'est le Call of avec lequel mes potes jouent, c'est le FIFA avec lequel mes potes jouent et je réfléchis pas. Et puis bah tant pis, je fais l'impasse là-dessus. Si demain Nintendo sort une console sur laquelle il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a le support des tiers plus les jeux Nintendo, ça ne peut que marcher. Alors, je sais pas comment ça pourrait et comment il pourrait en être autrement.
Je suis d'accord, sauf sur un point, c'est le fait que la console sort en 2017 alors que les les autres consoles, enfin Xbox One et PS4, sont sorties il y a peu, et les gens sont pas forcément prêts à repasser à la caisse aussi vite. Surtout que t'as dit toi-même que je prends la console sur laquelle mes copains sont, et si un mec qui a pas encore acheté une console de nouvelle génération, il va quand même aller là où sont tous ses copains. Et c'est ce qui me gêne un peu.
Sauf que il y a tout un tas de gens qui ont une PS4 aujourd'hui et qui ont une Xbox One aujourd'hui, qui sont en train de dire, attendez, on est en train de me guaquer. On va me faire racheter une PS4 Neo et un machin et un truc, donc quitte à racheter une console, moi je dis autant acheter une NX, c'est-à-dire autant acheter la dernière sur laquelle effectivement je suis certain que j'aurai du support pendant 5 ans.
Voilà, là ça je suis d'accord, et c'est vrai que là pour ça, si Sony sort vraiment une PS4...
Voilà, il y a peut-être une petite erreur de stratégie de Sony, c'est-à-dire, je vois bien ce que Sony essaye de faire. Ils ont déclaré récemment, il y aura peut-être... La question de la PlayStation 5, c'est pas quand, mais c'est si... C'est-à-dire que je pense que l'idée de Sony, c'est d'aller créer la marque PlayStation Neo sans le 4 et de sortir des jeux qui seront dans des boîtes PlayStation Neo. Et à un moment, il n'y aura plus de PlayStation 4 et machin, ce sera PlayStation Neo et tu auras la génération 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu achèteras un jeu pour la génération 5, il sera compatible avec la génération 4 et 3 éventuellement, mais pas avant. Je les vois bien faire ça, ils sont très bien partis. Microsoft, ils ont déjà annoncé que de toute façon, l'objectif c'était de fusionner ça avec Windows 10. Donc ils finiront par sortir une appliance.
Ça a commencé.
Voilà, ça a commencé. Hein. Quantum Break est le premier pas vers ce truc-là. Je suis pas sûr que ce soit le bon jeu pour faire ça parce qu'a priori il va bider.
Il y a Forza surtout dans le pipe aussi pour ça. Il y a Forza qui va.
Il y a Forza qui va faire voilà, exactement pareil. Voilà, Microsoft.
Mais Microsoft en fait ils ont un peu plus de mal parce qu'ils ont des. Enfin ils sont en train petit à petit de corriger, mais ils ont pris toute une série de mauvaises décisions pour le PC qui font que. Donc Windows 10 va pas se répandre facilement pour les joueurs. Et que,
on est d'accord, voilà, Windows 10 voilà. C'est pas forcément super
même,
bien
même
parti.
Même au-delà de ça, ce qu'ils font avec leur, je sais plus comment ils ont appelé ça, là, leur store exprès pour les jeux, enfin leur programme.
Mais le Xbox, le Xbox Marketplace. Hein.
Ouais, mais il y a un autre truc derrière encore. Enfin bref, il y a des trucs qui fonctionnent pas encore très bien, du genre, là ils viennent de le corriger sur la version preview de Windows 10, mais par exemple jusqu'ici, ça utilisait l'UI Metro, en fait, leur brawl, ce qui fait que tu pouvais pas régler l'anti-aliasing, une série de réglages pour tes jeux, quoi, tu vois. Vraiment de belles décisions techniques qui font que t'as pas vraiment la plus-value d'y jouer sur PC, quoi.
Oui, c'est effectivement un peu dommage, mais je vois bien Microsoft, à l'image de ce qu'ils ont fait pour la Surface, hein, même si la Surface, ça a quand même bien bidé aussi, je veux dire, au sens où c'est un... J'exagère un petit peu. On va dire que la Surface est un succès...
Mitigé.
Ouais, mitigé. C'est-à-dire que ça se vend quand même pas forcément. Enfin, c'est pas la folie.
Mais ça s'est quand même vendu.
Voilà, mais pour un coup d'essai, c'est pas si mal que ça. On va dire ça comme ça.
Par contre, les critiques derrière, enfin, ceux qui en ont en général, sont pas hyper contents non plus.
Bah, j'en connais qui sont contents, mais ils sont contents pas très longtemps. En ouais. général, ils finissent par repasser sur un vrai PC au bout de quelques temps. Par contre, les gens qui avaient acheté des Yoga, la marque de Lenovo, là...
Ça marche très bien. Moi, j'en ai un et...
Ouais, voilà. Je connais beaucoup de gens qui sont plutôt satisfaits de ce modèle-là.
Ça reste un vrai PC,
intermédiaire. Ça reste un vrai PC, mais où t'as un mode tablette qui permet de faire quand même 2-3 bricoles. Enfin, voilà, c'est sympa. C'est ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était plus... ce truc-là a l'air de quand même plutôt se détacher du lot. Mais bref, je vois bien Microsoft vendre une Surface pour télé, enfin, tu vois, Surface TV, genre... qui serait en fait une Xbox déguisée avec juste le marketplace pour les jeux et puis l'application Netflix et roule ma poule, quoi. Et ça y est, t'as une appliance qui fait du jeu vidéo et t'es capable de dire, c'est pas une console, c'est une Surface, et puis on sortira la Surface TV 2, et puis la nouvelle Surface TV, et puis voilà, t'as plus de génération de console, t'as la Surface TV qui te dit toute seule, c'est-à-dire que le marketplace est capable de te dire tout seul, non, tu as la Surface TV première version, tu ne pourras jamais faire tourner ce jeu. Exactement ce qu'essaye de faire SteamOS, c'est pas encore tout à fait au point.
Ouais.
Je viens juste à me couper en citant un tweet que je viens de voir passer. C'est un mec qui dit, avec Forza sur PC, notre idée c'était de niquer encore plus le marché de la Xbox One. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu...
C'est un peu ça.
Oui. Ouais, mais Microsoft a très bien compris que pour le jeu vidéo, ils ont tout intérêt à développer le PC, que la Xbox c'était un pari trop risqué en la laissant toute seule, quoi.
Le problème en développant sur PC, c'est qu'ils vont se heurter directement au rouleau compresseur du domaine qu'est Steam, et que pour l'instant, dans le match, je pense que Steam a gagné pour l'instant. C'est triste à dire, hein, mais je pense je pense que pour l'instant.
Bah et puis quand on développe des jeux, on veut aussi, faut voir aussi la base de consoles installées, quoi. Et Bah, quand tu développes un jeu pour, bah, comme là, sur PlayStation, il y a 40 millions de PlayStation, bah, tu ramasses plus de fric que si t'en as 10 millions, quoi. Donc, ça joue aussi, je pense.
Maintenant, je pense que l'idée de Microsoft, c'est aussi de dire n'importe quel PC sous Windows 10, il a le Xbox Marketplace, et donc si tu t'inscris avec ton compte ou je sais pas quoi, tu peux récupérer n'importe quel jeu. Du coup, là, tu touches potentiellement tous les PC de la planète, j'exagère un peu, évidemment, parce que voilà, mais n'importe quel PC Windows 10 de la planète, ça fait qu'un développeur peut être un petit peu plus motivé à sortir son jeu sur le Marketplace Xbox.
Ouais, ouais. Ouais, bon. Ouais, éventuellement, c'est éventuellement pas faux, si ouais. C'est. Ouais.
C'est pas, voilà, c'est pas, dans l'absolu, c'est pas non, idiot.
C'est,
hein,
c'est vrai, c'est vrai.
Ce qu'il faut, c'est être capable de dire oui, ce jeu va tourner sur ton PC ou pas. Je pense que c'est quand même surtout ça qui va être le.
Ouais, c'est ça.
C'est le gros problème du marché PC. Hein, c'est.
Ouais.
T'as autant de configurations ou quasiment que t'as de PC. Donc, voilà, il faut être capable d'arriver à faire le tri.
Ça bref. Fait un petit chiffre pour parler de la montée, enfin, peut-être pas la montée de Steam uniquement, mais la montée du jeu PC. C'est Oscar qui tweetait ça hier. Le chiffre d'affaires d'IA d'Electronic Arts sur l'année fiscale qui vient de se clôturer, 20% c'est sur le PC, quoi. C'est quand même énorme.
Bah, c'est énorme, mais en même temps, ça veut dire que 80% c'est sur console.
Il y a 12% sur mobile, il y a 50% c'est PS4 Xbox One, et il y a 17% c'est PS3 360. Donc le PC reste au-dessus de la 360 et PS3, et il fait un peu moins de la moitié des consoles nouvelle génération, mais je veux dire, c'est pas négligeable du tout pour Electronic Arts, qui produit pas tellement des jeux type PC. Quoi.
Ça veut dire que ça commence à être... ça veut dire que ça commence quand même à être un peu rentable et que ça vaut le coup de faire le portage sur PC, parce que de toute façon, t'as de plus en plus de gens qui sont comme nous et qui se disent « vaut mieux avoir une console Nintendo et un PC de gamer à côté ».
Ah oui.
Et voilà, ce qu'on répète depuis juste 15 ans, hein.
Ouais,
que j'ai toujours
depuis la GameCube en fait.
Voilà. Si on pouvait avoir juste une console Nintendo et se passer du PC de gaming pour la NX, on serait très content. On a largement dérivé du sujet de base, mais c'est bien, c'est comme d'habitude. Hein.
La base.
Oui, voilà, la base. Du coup, je vous propose.
Du coup, c'est l'occasion, voilà.
Pause musicale, parce que là, du coup, comme on a largement dérivé, je pense qu'on peut se permettre. Donc, on va toujours écouter la bande originale de Stealth Incorporated. C'est un morceau qui s'appelle G-Dop. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement parce que j'ai pas joué au jeu. Mais voilà, et on se retrouve tout de suite après pour parler de Stealth Inc. 2 et éventuellement un petit peu de Stealth Inc. 1. A tout de suite. Voilà de retour.
Tour.
Et j'ai pas foiré la transition.
Science.
Merci. Nous allons donc parler, pour faire plaisir à Méduse et pour faire plaisir à Yannoupa, nous allons donc parler de Stealth Inc.
Oui.
Alors, 1 et 2. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on parle d'abord de Stealth Inc, puis de Stealth Inc 360, puis de Stealth Inc 1 ? A priori, on va quand même plutôt parler du 1, puis du 2. On va essayer de faire ça de manière un petit peu chronologique.
Bah, c'est un ordre qui me paraît pas mal. Ouais.
Moi, ça me paraît pas mal non plus. Je te passe la parole, Méduse, puisque tu es notre expert, notre dieu en Stealth Inc. Et tu vas être capable de nous expliquer, pour les néophytes que, je suis, qu'est-ce que c'est. Oui, pas de pression, hein, mais t'es quand même, tout repose sur toi. Voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est bien, pourquoi il faut y jouer, pourquoi il faut en manger.
Parce que je l'ai dit déjà, ce qui me paraît être un argument de poids hautement
voilà,
suffisant.
Voilà, merci d'avoir suivi ce dojo bar.
pour ceux qui douteraient de ma crédibilité, on va quand même s'étendre un petit peu plus sur, sur ta sœur.
Celle-là, elle est validée.
Donc, Steel Bastard, c'est un jeu de Curve Studio, donc édité par Curve Digital, qui nous ont fait une série de brawls comme les Holy Holy, Swapper, enfin, ils ont fait des portages, mais bon. Voilà, ils ont fait une série de trucs. Et en fait, c'est juste un jeu à l'aspect un petit peu, c'est un jeu d'infiltration, en fait, en 2D, de profil. Ça se passe grosso modo, c'est pas exactement un jeu d'infiltration qui se passe par écran, mais pas loin. Et où le concept est d'éviter de se foutre dans les zones qui sont pas de l'ombre, parce que dans les zones qui sont pas dans l'ombre, généralement, il y a une petite tourelle qui risque de se mettre en route, un robot qui risque de vous suivre, etc. C'est assez sympa, il y a une ambiance un petit peu techno-futuriste comme ça, un petit peu fin du monde en même temps à l'intérieur, tout se passe en intérieur dans des bâtiments. Et ce qui est assez étonnant avec ce jeu, en fait, c'est, enfin, du moins pour le premier, c'est que la première fois que j'ai joué, bon, j'ai vu directement qu'il y avait une série de mondes. Et voilà, j'ai fait quelques niveaux du monde 1, et je me suis dit, ah, il y a des chouettes idées à chaque fois, à chaque niveau. Je me suis dit, il y a forcément un moment où ça va commencer à devenir redondant, ils vont pas savoir se renouveler, etc. Et en fait, jusqu'au tout dernier boss, ça se renouvelle tout le temps, ce qui fait qu'il y a vraiment de nouvelles situations, de nouveaux, puzzle d'infiltration, on va dire, c'est méga plaisant à jouer. Et en plus de ça, il y a une grosse touche d'humour parce qu'on crève ultra souvent dans le jeu. Et en fait, il y a certains endroits quand on crève, il y a un petit message qui apparaît sur les murs, genre un tag qui est mis en lumière pour dire ah, je t'avais prévenu, espèce de merde, ou ce genre de truc là. C'est un petit peu sadique comme ça en même temps. Je trouve ça assez plaisant.
Ah, ça te plaît, hein?
Ouais, j'adore ça.
Au niveau de l'ambiance, ça fait un peu penser à Portal 2.
Ouais, il y a une espèce d'atmosphère. Enfin, ça s'y rapproche pas dans l'esthétique, mais une espèce d'atmosphère comme ça, un petit peu froide, en même temps, un petit peu où tu sens qu'il y a un truc, je sais pas quel mot on peut mettre là-dessus.
C'est un peu de l'humour noir, non? Enfin, c'est. Parce que Portal 2, ça fait. Faut que je le fasse avec toi, Médus, Portal 2.
Oui.
Faut qu'on se le fasse ensemble. Mais pour moi, Portal, c'était de l'humour un peu noir, c'est-à-dire qu'il y avait le côté,
ouais, ouais,
il y avait le côté un peu second degré complet du truc. C'est genre, tout le monde aime les gâteaux, tu vois. Donc voilà, donc le truc qui, de toute façon, tout le monde a cherché une morale, alors qu'en fait, c'était les mecs se sont juste dit, bon, on s'en bat la race, on va essayer de mettre un truc un peu con. Il y a ce côté-là,
et
ça a marché, ce qui est quand même très curieux. Et il y a le côté humour noir un petit peu, genre oh, c'est dommage, tu es mort.
Ouais, mais c'est exactement ça.
Ouais, voilà, mais dans ce signe, c'est vraiment ça. Et je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais passer la parole à Yanoupa un petit peu.
Ben, moi j'ai plutôt joué aux deux, donc après l'ambiance, c'est enfin, moi je trouve que ça m'a rappelé en fait GLaDOS dans Portal 2, quand tu vas comme un con, et puis ben elle te donne un petit message oh, quel dommage, donc c'est du die and retry, donc c'est tout des petits trucs comme ça. Et puis ben surtout l'OST quoi, pour au niveau de l'ambiance qui fait beaucoup quoi, ça c'est du hip hop électro, enfin je trouve ça rare dans un jeu, mais ça se marie super bien avec le côté infiltration et plateforme du jeu quoi. Et donc l'OST c'est de Ricky Onmong, et on peut même l'acheter sur le site de Curve Digital. Et c'est pas de l'arnaque, parce qu'il y a 47 thèmes. Enfin, du 2, en tout
cas. Ah oui, quand même.
Le premier, je sais pas, j'ai pas regardé, mais le deuxième, 47 non, thèmes.
Ouais, c'est ça, t'en as facilement une trentaine aussi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Sachant que sur...
C'est un gros, gros point fort du jeu, quoi.
Ouais, le premier n'existe pas sur console Nintendo, mais il est chopable régulièrement sur PC à 2-3 euros avec l'OST incluse. Donc c'est vraiment le truc qu'il faut faire. En plus de ça, il y a une communauté derrière avec un éditeur de niveau. T'as facilement, moi à l'époque où je l'ai fait, ça devait être il y a un peu plus d'un an, t'avais facilement genre 300 niveaux de la communauté, quoi. Bon, après, évidemment, c'est comme Mario Maker, hein, c'est des niveaux de sadique généralement, mais.
Attends, t'as combien de niveaux dans le jeu de base, du coup?
Si je dis pas de bêtises, t'as 8 mondes de 8 niveaux, je crois.
Oui, à peu près 64 niveaux, hein, à vue de
pied. Ouais, c'est ça. Et t'as 8 mondes de 10 niveaux, et à chaque fois, en fait, tu peux récupérer certains trucs bonus dans certains niveaux. Il faut trouver la petite astuce pour les récupérer. Et là, t'as 2 niveaux en plus par monde. Donc, tu comptes à peu près, t'as pas loin de la centaine de niveaux, quoi.
Et c'est pareil, du coup, pour le 2, t'es dans la centaine de niveaux?
Bah, moi, j'en ai compté une soixantaine, par contre. J'ai compté, enfin, il y a 6 zones, t'as 8 salles par zone, et t'en as 2 cachées, en fait.
Donc ça fait une soixantaine au total, effectivement. Mais du coup, le 2, moins de contenu, ou finalement, les salles sont plus longues, plus complexes, plus... Est-ce qu'il faut vraiment avoir fait le 1, par exemple, pour être capable de faire le 2, ou est-ce que dans le 2, on te reprend par la main au début pour t'expliquer les trucs, et la difficulté est progressive, et on s'en sort très bien?
Ouais, non, la difficulté, elle est super progressive, enfin, elle est vachement bien foutue, parce que t'as... En fait, dans chaque zone, t'as un objet, en fait, spécifique, et en fait, t'as une partie apprentissage, une partie où t'as acquis l'utilisation du truc, et une dernière où t'as du die and rip plutôt pas mal, et les deux niveaux cachés là par contre là sont plutôt hard, mais t'es pas obligé de les faire, donc c'est pas trop grave. Et mais ouais, non, sinon la difficulté permet bien d'oser, et à chaque fois en fait le gameplay se renouvelle à chaque nouvelle zone, puisque t'as à chaque fois un nouvel objet en fait que tu gagnes d'ailleurs à la fin quand t'as fini les huit salles de ta zone, et que tu peux utiliser de ce fait là sur la map. C'est découpé comme un Metroidvania en fait, mais ça reste, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est quand même un peu linéaire, vu que t'es obligé de faire les 8 salles de ta zone pour passer à la suivante, quoi.
Donc, D'accord, mais une fois que en gros t'as la zone 1, donc t'es obligé de finir les 8 salles de la zone 1 pour passer à la zone 2. C'est ça l'idée. Ouais. Sauf que l'arme que t'as récupérée, enfin l'arme ou l'objet ou le machin que t'as récupéré dans la zone 1 te sera utile dans la zone 2 en même temps que celui que tu vas récupérer dans la zone 2. C'est ça l'idée, ou j'ai rien compris? C'est possible que j'ai rien compris. Vous avez le droit de dire que j'ai rien compris.
Ouais, si, c'est ça en fait. Et puis, à chaque fois, c'est des petits objets. C'est vraiment différent. Donc, ouais, si, après, tu utilises sur la map pour récupérer, pour trouver les autres salles en fait. Et, c'est ça. C'est ça l'idée.
Ouais, moi, le 2, j'ai juste fait... En fait, il faut savoir que dans le 2, t'as un mode coop, du moins sur Wii U. Je crois qu'il est exclusif à la Wii U. Et donc, le début, t'as pas accès directement au mode coop. Tu le fais solo. Et moi, j'ai fait jusqu'au déclenchement du mode coop. Et là, ça fait un an que j'attends ma copine pour entamer.
Ça fait un an qu'elle est sur le mec.
Mais du coup, par contre, je me souviens plus du tout en quoi consiste le mode coop, mais je crois que c'était assez intéressant. C'est un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, dans Rayman Legends sur Wii U, il y a un niveau un peu plus infiltration, justement, un niveau un peu plus infiltration.
Il y a un niveau, c'est sûr, un monde, je suis pas certain, parce que ça fait un moment que j'ai pas touché au jeu, mais il me semble qu'effectivement, il y a un niveau qui est un peu plus infiltration, dans lequel faut, un peu comme dans les Zelda, où tu sais, t'as les mecs qui éclairent, là, machin, faut pas se retrouver dans le rayon de lumière, donc faut quand même avancer un petit peu plus progressivement et faire un peu attention.
Quand tu joues en coop à Rayman Legends, en fait, celui qui est sur l'écran tactile, je crois qu'il contrôle la lumière, en fait. Donc, tu vois, tu dois être un petit peu coordonné avec les déplacements du mec qui bouge Rayman pour pouvoir le mettre dans l'ombre ou dans la lumière.
C'est du gameplay un petit peu asymétrique, dans le sens où, effectivement, si le mec pointe effectivement, c'est ça, c'est exactement ça. Si le mec pointe la lumière à un endroit et que tu te radines à ce moment-là, bah, tu te fais gauler et tu passes un sale quart d'heure. Et dans Rayman Legends, ils rigolent pas, hein. Je veux dire, ils te font la totale. Hein.
Ah oui, mais carrément, oui, non, c'est vraiment un chouette monde, en fait, et je crois que je sais plus trop, j'avais lu un peu ce qu'était le coop de Steel's Inc. 2 sur Wii U, mais à mon avis, ça doit se rapprocher de ce genre d'expérience-là, et du coup, ça va être méga fun, quoi.
Alors, je sais pas, Yanoupa, du coup, t'as pu essayer le co-op, hein, j'ai envie de dire.
Ben non, justement, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas testé, mais.
Tu n'as pas d'amis.
Voilà, exactement. J'ai... Non, mais ouais, non, j'ai pas pu tester. Mais à mon avis, il doit y avoir des trucs de coordination, de saut, etc. Enfin, il y a un moment, il y a un objet en fait dans le jeu qui te permet de faire un clone. Attention, spoil, trop tard.
Non, non, moi, c'est tu m'as gâché.
En fait, il faut savoir que le.
Non, mais je me casse.
déjà dans le premier il y a souvent des histoires de clones qui reviennent, mais vraiment un grand nombre de fois. Et d'ailleurs, en fait, les clones empruntent souvent une voie alternative à celle qu'on prend et finissent par se faire ramasser la gueule comme des merdes. Et il y a des niveaux en fait où il faut sauver son clone, et le clone nous aide par ses mouvements. Donc il faut essayer de coordonner avec lui en fait. Donc c'est un petit peu des voilà. Enfin, il y a une histoire de clone qui est aussi bien présente à mon avis dans le 1 que dans le 2. C'est pas un gros spoil.
Ouais, donc voilà, bon, à mon avis, le co-op, ça doit aussi jouer là-dessus. Sur des phases de plateforme à faire, enfin, pour être précis, quoi.
Ou les typiques modes, j'ai fini Kirby et le pinceau du pouvoir, ou le pinceau arc-en-ciel, je sais plus le titre en français. Il y a peu de temps, et à un moment, tu te retrouves avec deux Kirby à l'écran, et en fait, celui du haut va débloquer des trucs pour celui du bas, qui va débloquer des trucs pour celui du haut, et t'es obligé d'être effectivement extrêmement coordonné, mais tout seul. Ah oui. Il faut que t'arrives à te démerder pour enclencher un truc, faire avancer l'autre, enclencher le truc dans la foulée, machin. Enfin, je pense que ça, en coop, ça doit être très compliqué, tu dois passer ton temps à te gueuler dessus, mutuellement.
En fait, là,
un jeu de couple. Voilà.
Je suis en train de regarder le trailer du coop de SteelSync 2, juste pour le coop. En fait, c'est super marrant parce que le mec qui tient le gamepad, il peut écrire des trucs sur les murs pour que l'autre le voit. Et du coup, en fait, on voit dans le trailer que le mec lui donne des instructions. Puis en fait, après le mec suit les instructions, mais il se viande totalement. Du coup, l'autre écrit un troll sur l'écran du gamepad, quoi, tu vois. Donc il y a moins d'avoir des phases un petit peu comme ça.
Il a écrit grosse merde sur les
grosse merde, de... ouais c'est ça quoi.
tu sais pas jouer grosse merde.
Ouais c'est ça quoi. Je crois que le 2 doit être vraiment dans la grosse lignée du 1. Et c'est pour moi c'est clairement, j'ai pas fait une montagne de jeux de type 1D sur eShop Wii U. Je veux dire un jeu de la cabine de SteelSync, c'est clairement pour moi dans les trucs qui sont au top sur eShop. Quoi.
Je sais pas, Yanoupa, toi, c'est pas... Alors, toi, tu l'as torché du coup le jeu.
Ouais, j'ai.
Tu l'as retourné, tu l'as pris, tu l'as retourné.
Bah, j'ai pas fait tous les salles secrètes quoi, mais ouais, je l'ai bien fini quoi. Mais ouais, bah de toute façon, il était au niveau des critiques, c'était il y a juste, je crois, Eurogamer qui avait chié dans la colle, enfin qui avait dit que.
Eurogamer n'a pas reçu son pot de vin, du coup ils étaient vénères.
Ouais, voilà, mais sinon le reste de la presse, c'était. C'était vraiment unanime quoi. Enfin, non, c'est un super bon jeu. Il y a juste après au niveau technique quoi, il est pas très très beau. C'est vrai que c'est assez minimaliste, mais bon après c'est aussi, je pense que c'est aussi dû au gameplay parce qu'il y a beaucoup d'effets de lumière. Faut bien voir les plateformes. Tu peux passer dans des tuyaux, etc. Donc bon, à mon avis, ils sont pas trop pris la tête pour ça. C'est le seul petit point faible, je trouve, du jeu, c'est un peu la technique.
Après, un jeu qui est basé sur les ombres et les lumières, il a effectivement peut-être intérêt à ce que ce soit, ce que tu disais, hein, relativement contrasté. Et donc, du coup, peut-être un petit peu plus minimaliste, parce qu'il faut quand même garder un minimum de clarté. Je me souviens que c'était un des gros défauts de je sais plus quel jeu d'infiltration 2D, j'ai plus le truc en tête, mais où c'était pas toujours clair si t'étais visible ou pas, ce qui pour un jeu d'infiltration de ce type-là est quand même très chiant.
Mark of the Ninja ?
Je crois que c'est ça.
Moi, je l'ai bien aimé pourtant.
Mais moi, c'est pas que j'ai pas aimé, hein. Mais
on sait que t'es mauvais.
Je suis très mauvais. Mais déjà, il y avait un scénario, ça m'a perturbé. Il y avait une histoire avec des personnages. C'est quoi ce truc? Moi, si c'est pas juste sauver la princesse, je sais pas faire.
Trop compliqué parfois.
Des fois, elle est dans un autre château. J'étais là, mais un château, mais quoi? Mais ta gueule. Espèce de petite merde de champignon à la con. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, Mark of the Ninja, c'est ce dont je me rappelais, donc j'ai pas fait grand chose d'ailleurs, parce que justement, je trouvais qu'il y a des fois où il y avait un peu trop d'effets de lumière et de machin de trucs, c'était un peu le bordel à l'écran. Et je trouve que la lisibilité était pas toujours au top. Alors ça reste un bon jeu, ça reste un. Voilà, mais je sais pas, j'avais vraiment ce problème de lisibilité, de l'action et de pas forcément être très sûr de ce que je faisais. Alors c'est peut-être moi, hein, parce que ça, je sais que Marco Ninja a plutôt été apprécié, mais je me dis que Steel Inc. 2, si les mecs, ou 1 d'ailleurs, si les mecs ont réussi en faisant des trucs très clairs et très contrastés à t'aider, c'est pas plus mal.
Ouais. Je crois que le 2 est plus lisible que le 1, et le 1, franchement, s'en tire déjà bien, parce qu'il a juste, il est juste assez minimaliste, même s'il y a quand même des... En fait, même les jeux d'ombre sont un petit peu rétro. Enfin, t'as des skylines à l'écran en permanence. Tu vois, c'est vraiment un parti pris, je crois, qui est un petit peu arcade old school, quoi.
Ouais, bah, puis ça fonctionne assez bien. Exagéré, quoi. Mais de ce fait-là, bon, bah, ouais, c'est vachement visible. T'as aucun problème. T'as aucun souci, quoi, de lisibilité du jeu. Donc, c'est quand même vachement important pour un jeu d'infiltration, quoi. Enfin, je trouve.
Et moi j'ai une autre question, parce que sur ce genre de jeu là c'est assez typique, mais est-ce qu'il y a un gros potentiel de speedrun là-dessus? Est-ce que vous avez déjà vu du speedrun sur ce jeu là? Est-ce qu'il y a du scoring ou est-ce qu'il y a du speedrun?
Voilà. Sur le 1 il y a du scoring, le score c'est le temps que tu mets, quoi, bêtement, et t'as des leaderboards en ligne avec les temps des gens, les temps de tes amis, ce genre de trucs, quoi. Donc clairement c'est le genre de jeu où tu peux dégager un potentiel de speedrun. Ça, c'est pour moi, c'est clair. Après, est-ce que je suis pas certain que ce sera un speedrun de type trouver le truc que personne n'a encore trouvé pour réussir à passer le niveau, machin.
Oui, non, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être de la. Il n'y a pas seulement que de la maîtrise et de l'exécution. Il y a aussi peut-être de la réflexion, de trouver le meilleur chemin dans un niveau en faisant peut-être des trucs un peu hallucinants.
Ouais, le jeu n'est pas complètement linéaire, mais c'est pas sur tous les niveaux où tu pourras faire des trucs hallucinants, je pense, loin de là.
C'est quand même assez... Au sens, il y a rarement plusieurs options pour terminer une salle, ou t'as toujours au moins 3-4 possibilités pour la terminer?
Je crois que ça dépend. Enfin, je sais, je me souviens plus trop. Je sais pas ce qu'il en est pour le 2, mais dans le 1, ça dépendait vraiment des salles. Il y a des fois, j'ai eu plusieurs possibilités. Mais après, la palette d'action du personnage, elle est relativement basique, en fait. C'est vraiment servir des éléments du décor, les interrupteurs, pousser les trucs, passer à tel moment, à tel endroit pour pas se faire griller. Et c'est plutôt, parce que fondamentalement, les actions, c'est sauter, tirer, pousser, s'abaisser, point barre, quoi. Tu vois, donc c'est pas que tu peux faire, que tu peux être méga créatif non plus par rapport à ça. C'est pas que tu peux faire des vols planés dans tous les sens.
Ouais. Alors, je rappelle que Megaman a deux boutons, un sauter et tirer. Pourtant, on peut faire pas mal de trucs.
Ouais, voilà. Oui, voilà.
C'est ça. C'est pas la panoplie d'action me paraît pas être le plus intéressant là-dedans. C'est vraiment le level design qui fait ça pour moi.
Ouais, dans le 2, c'est la même chose. Hein. Ça reste assez simple. T'as pas 36 solutions pour finir les salles, quoi. Mais ça varie, en fait, d'une salle à l'autre. Des fois, tu peux finir le truc un peu différemment, ou même des fois avoir un peu de bol et pas te faire écraser par le machin qui tombe, alors que tu fais le même truc juste avant et tu te fais écraser. Enfin, mais par contre, ouais, il y a un côté, peut-être pas speedrun, mais, enfin, un time attack, quoi, sur les salles. Quand tu finis une salle, après ça s'affiche. T'as ton temps, t'as le nombre de morts que t'as fait. Ça te donne même un renfort, c'est le cas. Et bien sûr, moins tu crèves et plus tu vas vite, plus tu peux accéder au rang S.
Oui, il y a quand même un système de ranking aussi qui te permet de voir si t'es un bon ou pas.
Exactement.
Ah, c'est pas inintéressant ça comme. J'aime bien les trucs avec des rangs, moi, je sais pas pourquoi.
Parce que tu essayes d'obtenir le meilleur rang possible, quoi, tout simplement.
Ouais, mais c'est peut-être la négation du scénario aussi. Je ne sais pas. J'imagine.
Sûrement.
Je pense que le rang et la négation du scénario, nous allons arriver à cette conclusion-là. Bien, messieurs, je vous remercie de nous avoir parlé de ce Steel Inc. et Steel Inc. 2 que nous recommandons donc fortement.
Lorsqu'il fonctionne.
Oups.
Lorsqu'il fonctionne sur PC, alors Drosgar, évidemment, hein, Drosgar. C'est-à-dire qu'à son âge, il ne sait pas comment ça fonctionne un PC, hein, ouais. Parce que c'est un digital natif, c'est un natif des doigts.
Ouais.
Hein, et donc, les tablettes, il connaît le reste.
Je suis en train de regarder sur le premier, il y avait déjà des rangs, avec le rang S, A, B, etc. Et voilà, quoi. T'as les leaderboards aussi, ton meilleur temps, le nombre de fois où t'es mort. Aussi le nombre de fois tu t'es fait repérer par des ennemis, des patrouilleurs aussi,
ouais, indiqué. Aussi.
Et donc voilà, quand tu obtiens tous les rangs S, tu débloques un niveau particulier. Et quand dans chaque niveau, tu récupères un item spécial, tu débloques un autre niveau particulier. Donc t'as une durée de vie par monde. Ouais, t'as 80 niveaux. Quand tu débloques tous les trucs particuliers, t'as 80 niveaux. Et après ça, t'as encore par monde, une espèce de monde parallèle avec 10 niveaux dedans aussi. Ouais, donc en fait, t'as 160 niveaux, quoi.
Ah ouais, donc... Alors, attends, les...
Et ceux-là sont pas faciles.
Ouais, les niveaux parallèles, c'est quoi? C'est genre le mode miroir dans Mario Kart ou...
Non, pas du tout. C'est des niveaux supplémentaires liés au thème de chaque monde, mais qui sont beaucoup plus difficiles, quoi.
D'accord.
Et voilà.
Et dans le
doute, je crois qu'il y a que deux mondes parallèles, en fait. J'ai l'impression. À moins que j'ai pas encore débloqué les autres, mais...
Voilà. Le mec qui regarde en direct.
Et donc, je disais, dans le 2, t'as aussi, je sais pas s'il y a dans le 1, mais dans le 2, t'as des petites valises à trouver, et qui te permettent, bon, c'est du test, mais de changer la skin du personnage. Donc, des fois,
j'aime bien quand on peut changer.
Dans ce gars, t'es changiste de skin, faut le savoir.
Toujours.
C'est extrêmement particulier. Nous allons donc nous quitter sur ces entrefaits. Alors, Sting Sting 2, du coup, vous m'avez donné envie. Vous faites chier.
Mais 10€ sur l'eShop.
Ouais, bah il est pas cher en plus, hein. 10€ t'as dit ?
Ouais, 10€.
Ah putain, ça vaut carrément le coup en fait.
Ouais, il est parfois en solde aussi. Moi je l'avais chopé quand il était peut-être à 8€, 7€, je sais pas trop.
Ouais, d'accord, donc ouais, effectivement pour ce prix-là ça vaut le coup.
Ouais, carrément.
Nous allons donc nous quitter avec, une fois n'est pas coutume, une citation d'Hideo Kojima. Hideo Kojima, qui vous le savez, est un très très grand fan de Doom, le jeu. Et qui donc récemment en interview s'est mis à chanter Doom, 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 I want you in my room.
Putain, mais non.
Je suis tellement fier de ma connerie. Enfin, Hideo Kojima est très fier de sa connerie, excuse-moi. Voilà, ça m'a bien fait plaisir.
Je pensais qu'il parlerait de Manuel Valls.
Non, mais oui, on pourrait le faire aussi, mais je veux dire, à un moment, il faut essayer de garder un peu de décence. Voilà. Je suis super content de ma connerie. On se retrouve, nous, dans 2 semaines. Je tiens à m'excuser, un petit message de service aux personnes qui nous écoutent d'habitude en podcast. Je suis désolé, j'ai oublié d'appuyer sur le bon bouton la semaine dernière.
C'est un mensonge, en réalité, j'ai tout fait aujourd'hui.
Rembourser
nos invitations, bref. Deuxième petit message de service, le podcast va bientôt arriver sur Google Play Music. C'est pas encore fait parce que le service n'est pas encore ouvert en France, mais dès que ce sera le cas, on le publiera dessus, exactement comme on l'a publié sur iTunes. Donc si vous préférez utiliser Google Play Music plutôt qu'un logiciel tiers pour écouter vos podcasts, bientôt vous pourrez trouver le Dojo Bar directement dedans. Ce sera quand même beaucoup plus pratique.
Et bientôt aussi, en récompense avec vos points My Nintendo,
vous aurez droit à ce que Méduse vous bifle.
Voilà.
C'est la plus haute récompense de My Nintendo, il faut le savoir. Il faut 80 000 points, c'est complètement fou. Voilà, donc nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un programme qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera, et on se retrouve vendredi pour un dojo direct que je ne sais pas ce que ce sera non plus, parce que je suis à la rue, mais c'est pas grave.
Totalement, voilà. Mais bientôt c'est les vacances.
Mais bientôt c'est les vacances, du coup ça va aller beaucoup mieux. Ciao tout le monde.
Merci à tous.
Bonne nuit, bye bye.
Bonne soirée.
Ciao.